bonjour et bienvenue dans Les Arts du Fleu numéro 18. Arts du Fleu, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors au sommaire de ce numéro 18, eh bien, nous aurons quelques news, nous aurons aussi un dossier spécial activité théâtrale en classe de FLE avec Adrien Payet, et puis un point tech et la rubrique fourre-tout. Et on commence tout de suite avec les news. Alors dans les news cette semaine, eh bien, on commence avec le Café du FLE, le Café du FLE qui vient de sortir une interface spéciale portable. Donc maintenant, quand vous consultez sur votre téléphone ou sur votre tablette le site du Café du FLE, eh bien, vous avez un tout nouveau menu. Donc c'est très lisible, vous avez des titres d'articles écrits en gros avec une petite flèche, et puis quand vous cliquez sur cette flèche, eh bien, vous avez l'article, il est complètement formaté à la taille de votre écran, et du coup eh bien, c'est très lisible. Donc bravo Corentin pour ce travail. C'est très sympa de consulter les entretiens comme ça dans les transports. Une petite news maintenant qui concerne les Arts du FLE, puisque j'ai mis en place un abonnement par email, donc c'est assez simple. Vous avez le choix entre cliquer sur s'abonner par email et puis compléter le formulaire, ou directement entrer votre adresse email et puis vous validez. Vous avez un code pour activer votre inscription, et puis à partir de là, vous recevrez tous les prochains numéros par email. Donc ça, c'est assez confortable aussi, et ça simplifie beaucoup l'abonnement. Alors à noter quand même, hein, que ce sera pour les futurs numéros. Donc si vous vous abonnez, vous ne recevez pas les anciens, mais vous recevrez tous les numéros qui vont suivre votre abonnement. Alors cette semaine dans les news, du nouveau du côté du FLE avec Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour Sébastien.
Alors tu lances une nouvelle collection qui s'appelle Hier Encore, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Exactement, alors Hier Encore c'est 15 vidéos qui ont été didactisées pour la classe, donc il y a des fiches apprenants et des fiches enseignants. Ces 15 vidéos en fait portent sur des faits marquants des dernières décennies. Donc par exemple on a la chute du mur de Berlin, le débarquement allié, la crise économique de 2008, le mariage pour tous, donc assez de choses différentes en fait.
D'accord, et toujours en lien avec des événements d'actualité. Ce sont des vidéos issues de journaux ou de choses comme ça ?
Alors, ça peut être l'actualité, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'actualité parce que c'est vraiment des faits marquants des dernières décennies. Donc, il y a des choses assez anciennes. Le débarquement allié, bon, on en parle dans l'actualité, mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas vraiment d'actualité. Mais les vidéos, alors, il y a des vidéos qui viennent de l'INA pour la plupart. Et il y a d'autres vidéos qui viennent de franceeducation.tv. Donc, ce sont des petites vidéos de 3-4 minutes et qui ont été didactisées. Donc là, on a des vidéos, des fiches pédagogiques du niveau A2 jusqu'au B2.
D'accord, donc c'est des documents à exploiter en classe avec ses apprenants alors, hein ?
Exactement. Donc en fait, on a essayé, nous, dans la fiche apprenant, de travailler. C'est avant tout, en fait, un travail sur la compréhension orale. Donc il y a des activités de compréhension globale, de compréhension détaillée. Il y a aussi une activité qui est soit de vocabulaire pour permettre aux apprenants de comprendre le vocabulaire en contexte, donc développer aussi de nouvelles techniques d'apprentissage chez les apprenants, soit un exercice de grammaire. Donc l'exercice de grammaire, ça peut être soit une phase de conceptualisation, ça peut être aussi une phase de systématisation. En tout cas, on ne prétend pas faire un cours de grammaire avec ces fiches-là, c'est pas la partie, c'est pas l'objectif de ces fiches. Et ensuite, on a les activités de production qui viennent après tout ce travail de compréhension, ce petit exercice soit de vocabulaire ou de grammaire. Et donc là, concrètement, c'est réemployer en contexte ce qu'on a pu voir avant, en fait.
D'accord. Et dans les exemples que tu citais, c'était des exemples de faits qui ont marqué l'actualité internationale, donc dans les dernières décennies. C'est toujours international ou t'as parfois des choses très franco-françaises ?
Alors il y a des choses françaises, franco-françaises, pardon. Mais oui, effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'international surtout. Donc c'est des faits qui ont marqué à l'international.
D'accord, donc les apprenants connaissent déjà quelques éléments avant de pouvoir commencer à se lancer dans la compréhension. Hein.
Alors, les apprenants et aussi les enseignants, c'est pour ça que dans la fiche enseignant, en fait, il y a pas mal de choses. Il y a entre autres un point culture. Donc, pour déjà orienter aussi le prof qui peut-être ne connaît pas, parce que c'est sûr, si on s'adresse à des profs de pays très lointains de l'Europe, ils ne connaissent peut-être pas l'histoire de la chute du mur de Berlin, c'est possible, ça dépend aussi de l'âge des profs. Donc il y a un point culture en fait qui revient sur tout ce fait, qui explique un petit peu en détail. Et y a pas mal de pistes. Sincèrement, sur la fiche enseignant, il y a pas mal de pistes qui orientent les profs, qui essayent d'aider les profs, qui leur donnent des conseils. Et voilà. Donc, en plus de la correction des activités, il y a quand même pas mal de choses aussi pour aider le prof à construire sa séquence.
D'accord, donc ce sont des activités clés en main, mais suffisamment ouvertes pour que le prof puisse les adapter un peu comme il le souhaite.
Alors, c'est un peu l'objectif aussi, hein. C'est vrai que, bon, il y a la fiche apprenant, donc sur cette fiche apprenant, je pense que les activités de compréhension, on les fait telles quelles, mais après, forcément, les activités de production, je pense que c'est intéressant aussi que le prof se dise, voilà, est-ce qu'elle convient à mon groupe, est-ce que je peux l'adapter d'une façon différente? C'est l'objectif aussi, hein. C'est aussi que le prof se dise, ben, voilà peut-être ce que je peux faire avec un document authentique, peut-être que moi, je peux proposer d'autres types d'activités. Nous, ce qu'on a essayé de faire aussi sur la fiche apprenant, c'était de proposer en fait différents types d'activités afin de cibler aussi différents profils d'apprenants. Et pas toujours faire les questions vrai-faux ou les questions reliées, mais essayer de proposer des choses assez différentes.
D'accord. Et alors, qui a participé à la conception de ces fiches?
Alors, il y a 11 profs qui ont participé à la conception de ces fiches. Donc, je suis très content parce qu'on a enfin élargi un petit peu l'horizon.
Bah ouais, la dernière fois, tu lançais un appel un petit peu. Donc, je vois
exactement,
que ça...
exactement. Donc, sur les 11, on reste quand même avec 9 profs marocains. Donc, c'est quand même le gros de l'équipe. Mais on a un prof qui est basé à Venise et on a une prof qui est basée à Salamanque en Espagne.
D'accord.
Donc on s'internationalise un petit peu nous aussi, et puis j'espère que c'est que le début.
Ouais. D'ailleurs, on en profite pour renouveler l'appel, hein. Si des profs veulent te soumettre des activités, c'est toujours faisable sur ton site, hein.
Exactement, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu des contacts suite à la dernière émission et j'en suis très content.
Et sur le site aussi, une autre actualité qui concerne plus les photos maintenant.
Oui, alors en fait, on a lancé un concours. Donc, c'est un concours photo, en fait, qui s'appelle « J'aime ma vie ». Donc, le titre du concours en dit beaucoup. L'objectif, en fait, c'est de faire une photo avec un flyer du site qui est disponible en ligne et qu'on peut télécharger en ligne et de nous montrer que, oui, que vous aimez votre vie, que vous êtes heureux de vivre là où vous vivez et avec les gens qui vous entourent. Donc, il faut faire preuve de créativité, nous montrer votre région, votre pays, votre école, ce que vous voulez, mais faire une photo qui dégage de la joie de vivre. Et puis voilà, donc après cette photo, il faut nous l'envoyer. On fait ça en fait en partenariat avec l'association Young Photographer, donc qui est basée ici à Agadir, donc où je suis moi-même. Donc voilà, en fait, on fait ça en collaboration ensemble. Donc le concours en fait est ouvert du 1er juin, donc il a commencé le 1er juin jusqu'au 15 août. Il faut nous envoyer vos photos aux deux adresses qui sont mentionnées sur le site. Alors sur le site, vous allez retrouver le descriptif du concours, le règlement et la galerie photo qui commence peu à peu à s'enrichir des photos que vous nous avez envoyées.
D'accord, c'est un concours individuel ou je peux le faire avec ma classe?
Ah, tu peux le faire avec ta classe par exemple, il y a aucun problème, au contraire. Alors par contre, il y aura une seule personne inscrite, c'est-à-dire la personne qui a fait la photo et qui a envoyé la photo. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des sponsors, donc que je remercie, c'est Hachette et Didier. Donc, il y aura un jury qui va se réunir début septembre, un jury donc de professionnels de la photo, et qui choisiront les 3 meilleures photos. Et donc, les 3 personnes seront récompensées avec des cadeaux FLE.
Oh, d'accord. Il y a quoi à gagner alors?
Eh bien, des manuels, donc de chez Hachette et Didier. Donc après, ça sera ciblé aussi en fonction du profil de la personne qui va gagner. Donc, est-ce que c'est un enseignant? Est-ce que c'est un apprenant? Et quels sont ses besoins un petit peu, et puis on verra donc quels manuels peuvent intéresser ces personnes, et puis on leur enverra les manuels.
Ah, c'est sympa ça. Ok, et ben merci beaucoup Ludovic.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ces news. N'hésitez pas surtout à envoyer vos photos sur le FLE avec Ludovic. Moi, je vais essayer d'en faire une aussi à New York pour essayer de gagner des manuels des éditeurs Hachette et Didier. Et on passe maintenant au dossier avec Adrien Payet qui nous parlera d'activités théâtrales en classe de FLE. « Alors aujourd'hui, pour ce dossier spécial activité théâtrale en classe de FLE, je reçois Adrien Payet. Alors Adrien qui est d'abord comédien, qui a ensuite utilisé sa passion pour le théâtre pour devenir enseignant, puis auteur aussi chez Clé International, on reviendra un peu sur les ouvrages, et puis formateur de formateurs, toujours en français langue étrangère. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors justement, dans ton parcours, tu disais que tu étais d'abord comédien pour ensuite devenir prof. Est-ce que pour faire du théâtre dans sa classe, on est obligé d'être soi-même comédien?
Alors non, effectivement, la réponse, c'est non. On n'est pas obligé d'être comédien pour faire du théâtre. Effectivement, si on a soi-même suivi quelques cours de théâtre ou on a participé à des ateliers, ça va nous aider à transférer ce que l'on a vécu sur la scène, à le transférer dans la classe. Hein, quelques petites choses comme avoir les mains moites avant de passer sur scène ou tout ce qui est le plaisir de partager ses expériences avec des partenaires sur scène, les applaudissements, etc. Donc c'est plutôt à travers le vécu que ça peut être intéressant à l'avoir vécu une première fois avant de le proposer, mais bien sûr que non, ce n'est pas obligatoire du tout d'être comédien pour proposer ces activités. Et d'ailleurs, récemment, j'ai rencontré dans une de mes formations un professeur qui me disait que lui, il ne parlait pas d'activité théâtrale. Il refaisait toutes les activités que je propose dans mon livre, mais il appelait pas ça activité théâtrale, de moins dans un premier temps, parce que les apprenants se sentaient souvent un petit peu bloqués à l'idée même de faire du théâtre, l'idée que l'on a, que l'on se fait du théâtre, et du fait de ne pas leur dire, eh bien, ils se lançaient plus volontiers dans l'activité.
Ah oui, comme ça évite tout ce qui est, ben moi j'ai pas les compétences, je suis pas acteur,
voilà,
ça évite toutes ces questions.
Pas. Ouais, exactement. On l'entend partout. Moi, j'entends aussi souvent chez les profs qui disent, voilà, faire du théâtre, quand ils réalisent que l'activité, que l'atelier va être pratique, qu'on va tous ensemble jouer ces activités, ils disent, ah, non, moi, du théâtre, c'est pas possible. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est des petits jeux, des petites activités, qui sont en fait des jeux de préparation aux jeux d'acteur. Qui aide l'acteur à se sentir prêt, à l'aise, à jouer sur scène, et que j'ai cherché à détourner, à utiliser pour l'enseignement du français. Mais on est très loin dans les activités qu'on propose. On est très loin de l'idée que l'on se fait habituellement du théâtre, très loin encore au tout début du moins de la représentation théâtrale et surtout de la représentation mentale que l'on se fait habituellement de cet art.
Oui, alors c'est vrai que quand on est prof, avoir suivi une formation comme ça où on nous demande ce que finalement plus tard on va demander à nos apprenants, c'est vrai que ça vaut le coup. Moi j'ai eu la chance de suivre ta formation à l'Alliance française de New York, et puis en fait ça commence tout de suite, hein. Même si on parle pas avec des gestes et tout ça, il faut tout de suite se mettre en scène devant les autres, et c'est vrai que ça fait, on se rend compte de beaucoup de choses. Alors si on peut le faire après en langue étrangère pour se rendre compte de ce que ça donne, c'est pas mal aussi, hein.
Oui, complètement. Ouais, ouais. Se mettre un petit peu dans la peau de nos apprenants, c'est vrai que c'est un exercice assez intéressant et ça permet un petit peu de, quand on décide de changer nos pratiques, bien aussi prendre des risques, hein. Changer nos pratiques, c'est prendre des risques, mais se mettre à la place des apprenants, c'est aussi comprendre les risques qu'ils prennent.
Ouais. Alors, à partir de quel niveau tu dirais qu'on peut commencer à mettre en place ces activités? Alors, j'ose plus les appeler activités théâtrales, mais entre nous, on peut le faire, même si on les présente pas comme ça. Donc, à partir de quel niveau tu penses qu'on peut commencer ces activités?
Alors, en fait, on peut commencer ces activités dès le niveau A1, puisque on va le faire d'une manière progressive. Encore une fois, beaucoup de professeurs pensent que le théâtre est habituellement pour des niveaux B et qu'on ne peut pas vraiment faire des activités théâtrales avant. En fait, si, c'est possible, mais on va y aller progressivement. Et en fait, la progression donc passe du geste à la parole. C'est-à-dire que au début, on va aider l'apprenant à s'exprimer pleinement à travers son expression corporelle. Il doit se sentir à l'aise de s'exprimer corporellement. Alors pourquoi? Pourquoi s'exprimer corporellement? Pourquoi clarifier sa gestuelle? Eh bien, parce que quand on parle une langue étrangère ou on essaye de parler une langue étrangère, eh bien, on a souvent ce blocage langagier. on ne trouve pas les mots. Et quand on ne trouve pas les mots, la première chose que l'on fait, c'est d'utiliser les gestes. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aider les apprenants à se sentir à l'aise avec leur gestuelle pour accompagner ce qu'ils cherchent à dire en français. Donc d'abord, on travaille sur la gestuelle dans un premier temps. Et puis, petit à petit, on va. Donc, ça commence avec du mime. Il y a beaucoup d'activités de découverte, hein, où il va falloir découvrir ce qui a été mimé. Donc, tout ça peut se faire avec un niveau très débutant. Ensuite, on va arriver à des improvisations gestuelles, non verbales. Là encore, on n'a pas le blocage langagier. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on apprend des structures et du vocabulaire, on va introduire ce vocabulaire dans nos improvisations gestuelles. Donc, de façon très, voilà, vraiment petit à petit, on va introduire ce vocabulaire et tout ça, encore une fois, pour éviter le blocage.
Et tu dirais qu'on peut commencer son premier cours avec des activités théâtrales ou il vaut peut-être mieux pas?
Si, bien sûr. Et effectivement, dès le début, même la leçon, dans la leçon zéro, ça peut être justement là très intéressant de travailler sur les activités théâtrales pour créer la cohésion de groupe, pour débloquer les élèves justement, ou des premières activités brise-glace que l'on va orienter déjà vers un aspect davantage théâtral. Oui.
Ouais. Et là, c'est vrai que pour vous aider, donc il y a ton livre, hein, Activité théâtrale en classe de langue, donc chez Clé International, où tu fais deux parties, hein, une partie pour la classe et une partie si on veut mener un projet théâtral. Et dans cette première partie, je crois que de mémoire, t'as la deuxième partie de la première partie qui est un
60.
ensemble de fiches. Ouais, 60 fiches, hein, qui peuvent aller effectivement du mime ou des choses plus complexes où il y a des dialogues, des solutions. Des situations à jouer en improvisation, etc.
En fait, souvent, l'erreur que l'on fait, c'est autant qu'enseignant, c'est souvent on veut faire parler les élèves. Donc, on leur propose tout de suite de venir devant le tableau et de jouer des activités. Alors, ça peut être des jeux de rôle ou plusieurs activités pour travailler l'oral. Mais on leur propose peut-être un petit peu trop rapidement et du coup on se rend compte qu'ils arrivent, bon déjà ils ont un petit peu du mal à venir parce que le groupe n'est pas forcément soudé, ils ont peur du regard des autres, etc. Et puis quand ils s'expriment, ils vont souvent baisser les yeux, la tête, mettre les mains dans les poches ou alors piétiner. Et c'est vrai que quand on a la tête baissée, les mains dans les poches, on a du mal à s'exprimer clairement, que ça soit dans sa propre langue ou en français. On va pas forcément bien articuler, projeter la voix. Et donc aider l'apprenant à se sentir déjà à l'aise corporellement, ça va effectivement lui donner un appui suffisant pour pouvoir s'exprimer ensuite correctement et clairement en français. Donc c'est ça, voilà, cette progression-là vient est progressive. D'abord, il faut commencer par la cohésion de groupe et puis ensuite arriver doucement à proposer des activités qui ne soient pas trop terrorisante, on va dire, hein, pour l'apprenant. Donc, on le fait pas tout seul. Par exemple, on va rarement demander à un élève de venir tout seul face à la classe. On va d'abord leur proposer des activités de groupe, et puis s'ils doivent jouer quelque chose, de le jouer à trois, à quatre, et ensuite, seulement un petit peu plus tard, le jouer tout seul, et seulement un peu plus tard, vraiment prendre la parole ou interpréter quelque chose. Et ça permet d'éviter de simuler uniquement une situation de communication quand on arrive à l'étape des jeux de rôle. On va pas uniquement simuler, mais on va vraiment interpréter, on va vraiment être actif, l'apprenant va agir sur la situation parce qu'il y aura une interprétation et pas uniquement une simulation de la situation.
Ouais. Sans compter que toutes ces activités, donc là aussi, il y a beaucoup d'exemples dans ton livre où les apprenants travaillent par trois dans leur coin, etc. Il y a beaucoup de coopération aussi. Donc quelque part, il faut bien qu'ils négocient, qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire. S'ils doivent mimer quelque chose, ils vont négocier à plusieurs comment le faire. Il y avait le jeu des statues aussi où on pouvait coopérer. Il y a plein de choses comme ça avec des objectifs intermédiaires qui permettent de faire parler les apprenants. Sans pour autant que ce soit tout de suite sur la scène, sous les feux de la rampe.
Exactement, tout à fait.
Alors, puisqu'on parlait des objectifs un petit peu, tu penses qu'on peut travailler quel type d'objectif avec ces activités théâtrales?
D'accord. Ben alors la première, effectivement, c'est celle qu'on vient de dire, c'est-à-dire la cohésion de groupe. Hein, on le sait tous, une classe peut très bien fonctionner, enfin, ou une activité peut très bien fonctionner avec une classe et puis très mal avec une autre classe. Et ce qui fait souvent la différence, c'est pas tellement le niveau des élèves, c'est leur cohésion, c'est est-ce qu'il y a un vrai groupe, est-ce que les apprenants osent faire quelque chose face au groupe. Voilà, établir vraiment de la confiance chez les apprenants pour arriver à ces déblocages. Hein, ces déblocages, le premier déblocage, c'est donc ce déblocage psychologique où l'apprenant a peur de faire une erreur, d'être jugé, voilà, du regard des autres, de l'évaluation négative. Ensuite, il y a le blocage linguistique, hein, on ne trouve pas les mots. Et puis parfois, alors ça c'est drôle parce que je tourne dans plusieurs pays et je m'en rends compte souvent, il y a beaucoup de différences à ce niveau-là en fonction de la culture et du pays. Un blocage corporel aussi, hein, où les apprenants vont avoir parfois plus de difficultés à oser s'exprimer corporellement, hein, ce qui peut être encore une fois quelque chose de culturel. Donc le théâtre va permettre de débloquer, hein, toutes ces difficultés, d'arriver à oser prendre la parole, à oser s'investir dans le groupe. Donc ce sont des premières activités, donc surtout de groupe, hein, pour travailler sur la cohésion. Donc ça, c'est le premier objectif que l'on peut travailler avec le théâtre. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être de vivre la langue étrangère. Hein, on appelle ça, d'ailleurs, c'est drôle, une langue étrangère. Ça paraît très étranger à soi, alors que finalement, on se rend compte quand on met en place ces activités théâtrales que on va vivre les mots, on va ressentir, on va jouer sur voilà un ressenti personnel à la fois des mots, mais aussi de la phonétique, même de règles de grammaire. Qui paraissait très absurde, très abstraite, très extérieure à soi. Et on va, à travers donc les jeux que je propose, les vivre corporellement. Donc souvent, voilà, c'est à travers le corps, c'est à travers la mémoire corporelle. Tu parlais tout à l'heure de l'exercice des statuts personnages. Ça consiste à interpréter un mot. Si à un moment donné, je vous dis fleur, vous vous mettez en une statue qui représente une fleur. Donc là, l'apprenant doit, dans un premier temps, imaginer qu'est-ce que c'est qu'une fleur, se faire une représentation visuelle, puis représenter corporellement le mot fleur. Et après, si on ajoute un adjectif, hein, ce qu'on fait régulièrement en atelier, ça sera une fleur délicate. Et donc là, il aura vécu le mot fleur, il sera mis en une statue, et puis ensuite, il aura légèrement tourné, il aura fait un mouvement. Il aura vécu à travers ce mouvement l'action de l'adjectif sur le nom fleur, l'action de délicat. Voilà, donc on est vraiment dans une perception personnelle de la langue étrangère pour la rendre moins étrangère et pour la graver, hein, puisque la mémoire corporelle est très très forte pour graver à travers les sens, à travers le corps, par exemple, ce vocabulaire. Mais ça peut être aussi à travers la phonétique. Là, c'est un autre exercice où on a par exemple les caisses de résonance et on va se rendre compte qu'il y aura une vibration, hein, on va sentir une vibration à l'émission de certains sons en français. Donc, on va chercher au niveau de la poitrine, au niveau de la tête, au niveau du cou, où vibre, quelle partie du corps vibre à l'émission de certains sons. Donc, ça, encore une fois, on se rend compte qu'on est finalement un instrument de musique et qu'on doit apprendre à s'accorder, qu'on doit apprendre à s'accorder pour parler une langue étrangère mais que c'est possible, la capacité est en chacune d'entre nous, puisque c'est notre corps qui va produire ces sons.
Ouais,
Donc,
cette activité de phonétique, c'est vrai que quand je l'avais faite, moi c'était la première fois hein, que j'entendais parler de ces caisses de résonance qui changeaient selon les sons, et c'est vraiment frappant quoi. On sent où ça vibre en posant les mains comme ça et en prononçant le son, c'est assez surprenant d'ailleurs, hein.
Oui, c'est vrai, on se rend compte on devient davantage, enfin, on se rend compte un peu du potentiel en fait qu'on a, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, complètement, et puis qui donne confiance du coup aux apprenants. Et puis le dernier point hein, des objectifs, enfin le dernier en fait, il y en aurait beaucoup plus, mais un point à souligner et qui est peut-être pour moi le plus important, eh bien c'est de prendre plaisir, de prendre plaisir à communiquer en français et à communiquer pleinement en français. C'est-à-dire pas uniquement à communiquer parce que on a un certain nombre de connaissances, de savoirs et que on va pouvoir s'exprimer, mais parce qu'on va pouvoir s'exprimer voilà pleinement en français avec, comme je disais tout à l'heure, avec le corps. Puisqu'on s'exprime toujours hein, avec le corps, utiliser les intonations, imiter même parfois un accent français pour un étranger, c'est une expérience qui est assez intéressante, être davantage dans une interprétation, davantage s'impliquer davantage dans son apprentissage de la langue. Donc tout ça provoque beaucoup de plaisir, on s'en rend compte tout de suite en atelier, il y a beaucoup de joie parce que ce sont des activités ludiques parce que il y a un groupe qui est formé, il y a un nouveau rapport qui s'installe avec l'enseignant et puis avec le reste du groupe. On découvre toujours alors des talents, on peut appeler ça des talents ou on peut appeler ça des disons on va découvrir chez certaines personnes une capacité à jouer, à interpréter, à improviser. Et c'est intéressant aussi, ça, de voir que certains élèves qui étaient peut-être un peu qui s'auto-qualifiaient comme le premier de la classe, le dernier de la classe, le timide, hein, on stéréotype facilement. Et puis on se rend compte que finalement, eh bien, le cancre se retrouve être un très bon comédien, un très bon mime, arrive à faire rire et arrive à faire rire dans une activité qui fait partie de la classe et pas dans, lui tout seul au fond de la classe. Et donc c'est tout ça qui est possible, qui devient possible quand on propose aux apprenants de sortir vraiment ce qu'ils ont en eux. On découvre parfois des talents cachés assez extraordinaires aussi.
Ouais, c'est frappant ça, hein, des fois de voir des apprenants qu'on n'attendait pas se révéler d'un coup comme ça et nous surprendre, c'est assez bizarre même.
Ouais, c'est un beau cadeau.
Et donc tu le disais, hein, on peut travailler vraiment, quand tu parlais des objectifs un peu plus linguistiques, on peut vraiment tout travailler, que ce soit la prononciation, la syntaxe, il y a tout est vraiment possible. Je me souviens de cet exercice de l'orgue humain que moi j'ai réutilisé en classe sur la syntaxe des questions parce que là on peut jouer beaucoup avec l'ordre des mots. Tout est faisable. Est-ce que quand même dans un cours, vu tous ces objectifs, on peut pas arriver à vouloir trop faire d'activités théâtrales? Je veux dire, est-ce qu'il y a un dosage quand même à préconiser ou finalement sur 1h30 de cours, je peux faire pratiquement que des activités théâtrales?
C'est une très bonne question, puisque la question du temps hein, est celle qui revient le plus souvent dans les questions des professeurs lors des ateliers. C'est une problématique aussi que l'on a tous, hein, parfois de manque de temps. Alors, comment est-ce qu'on va doser hein, comment est-ce qu'on va doser ces activités théâtrales dans le temps imparti? La première chose, c'est que finalement, plus qu'une histoire de temps, c'est une histoire de pratique. Ces activités, effectivement, peuvent remplacer d'autres activités qui étaient proposées dans un manuel. Hein. Quand on a un manuel sous les yeux, on ne va pas forcément suivre toutes les activités du manuel. On va à certains moments se dire, tiens, bah, cette activité-là, je vais la passer, je vais la remplacer par celle-ci, je vais la transformer de telle manière. Et c'est là où on peut donc introduire ces activités théâtrales à l'intérieur du cours. Donc en fait, ça demande pas plus de temps, ça demande une certaine prise de risque et un changement de pratique. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les activités théâtrales, effectivement, peuvent se placer à plusieurs endroits du cours. Mais moi, j'ai tendance à dire aux professeurs de les introduire vraiment ponctuellement et de les introduire presque homéopathiquement. Voilà, c'est vraiment une fois de temps en temps, on va avoir une activité théâtrale. Mais pour qu'elle soit comprise des apprenants, il ne faut pas que ce soit 5 minutes avant la fin du cours où on dit « bon, bah, allez, il nous reste 10 minutes, 5 minutes, on va faire quelques jeux de théâtre », parce que ça serait vraiment pris comme une activité récréative. Alors que si le professeur l'intègre, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur du cours, dans sa séquence pédagogique, à un moment bien précis, possible parce que l'on a déjà vu le vocabulaire et que par exemple l'activité va permettre de réactiver ce vocabulaire, de le graver à nouveau, mais cette fois-ci dans cette mémoire corporelle par exemple, ou de vérifier hein, que la structure a été apprise. Etc. Donc c'est un moment bien précis, ça serait pour les jeux de dynamisation. Si c'est pour les jeux de rôle théâtralisés, ça serait plutôt à la fin de la classe pour vérifier que l'objectif communicatif a été rempli, que l'apprenant ou les apprenants se sentent capables à partir de maintenant de se plonger dans cette situation de communication et de la vivre à travers l'activité théâtrale. Donc ça serait plutôt situé vers la fin. Voilà, mais c'est vraiment au professeur d'intégrer cette activité dans son cours et faire effectivement de pas forcément faire un cours entier de théâtre. Il y en a qui le font, et j'appelle pas ça un cours, j'appelle ça un atelier. Ça serait un atelier de théâtre, et ça peut être, on peut ouvrir par exemple un cours de pratique de l'oral, et on va faire essentiellement des activités théâtrales pour renforcer l'oral, par exemple. Ça, c'est possible. Mais le professeur qui a son cours, qui a son manuel, ou qui a plusieurs manuels, pourra aussi introduire ces activités de manière très ponctuelle. Donc, je répète, donc soit au tout début de l'activité, pardon, au tout début du cours, quand on voit les élèves arriver en traînant des pieds, ou au contraire avec un surplus d'énergie, qu'il va falloir un petit peu contrôler toute cette énergie, arriver à l'utiliser, à en faire quelque chose d'utile pour la classe. Alors là, on va proposer des jeux de groupe dès le début, hein, des activités de dynamisation ou au contraire de relaxation ou de cohésion dès le début de la classe. Ensuite, donc d'autres activités les plus linguistiques vont être proposées plutôt au milieu du cours, à un moment propice puisqu'on aura déjà vu les notions. Et puis là, tout de suite, on va aussi travailler sur la systématisation hein, des contenus à travers ces activités au milieu du cours. Et à la fin du cours, la possibilité de faire un jeu de rôle si le cours le permet. Mais voilà, ça peut être une, deux ou trois insertions d'activités dans la classe, pas forcément plus.
Ouais, puis il faut pas oublier que ça demande de l'énergie. Moi, je me souviens qu'après la journée de formation passée avec toi, j'étais sur les genoux. Toi, tu devais être à peu près dans le même état. C'est vrai que ça fatigue pas mal, hein.
Ouais, mais bon, ça fatigue plus encore de rester derrière son bureau et d'attendre que les apprenants travaillent. On se rend compte que moins on est actif et plus on est fatigué. Hein.
C'est
C'est
vrai.
de la bonne fatigue, on va dire.
Est-ce que tu vois des limites peut-être ou des peut-être des faiblesses dans ces activités théâtrales ou plutôt des points auxquels il faut faire particulièrement attention quand tu veux lancer ces activités en classe?
La première chose, c'est alors ça dépend aussi du public. Hein. On peut faire des activités théâtrales pour des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Il y aura une petite adaptation à faire, mais de manière générale, toutes les activités peuvent fonctionner. Ce qui va changer, c'est la manière que l'on va avoir de présenter ces activités et de les faire comprendre. Par exemple, pour les adultes. Et particulièrement pour les adultes en milieu professionnel, avec des objectifs très clairs, pour qui chaque minute de cours est de l'argent dépensé et qui attendent un résultat visible et concret, on peut avoir peur que ce public se sente un petit peu, ait l'impression de ne pas travailler avec ses activités théâtrales. Donc il est important de bien leur expliquer. Hein, et qu'ils se rendent compte qu'avec ces activités, en fait, ils travaillent. Hein. Effectivement, ça va aller avec l'intégration des activités dans le cours. Mais ça va aussi avec le contrat pédagogique que l'on passe avec les apprenants. Donc, dès le début de l'année, on va passer ce contrat pédagogique avec les apprenants où on va leur demander un certain nombre d'efforts et on va aussi leur expliquer notre manière de travailler, leur proposer cette manière. Et c'est là où, dès le début, on peut proposer des activités théâtrales. Alors, dites ou non théâtrales, hein, vous pouvez très bien, comme ce professeur, ne pas dire qu'il s'agit d'activités théâtrales. mais ça va faire partie intégrante du cours. L'apprenant doit sentir que ça fait partie de votre pratique pédagogique, hein, particulièrement ces apprenants adultes qui ont vraiment besoin de sentir qu'ils avancent, qu'ils progressent. Mais chez les adolescents aussi, hein, c'est aussi important. Donc c'est ça, arriver à être suffisamment convaincu déjà vous-même et arriver à convaincre vos apprenants. Alors comment est-ce qu'on convainc les apprenants? Aussi en s'investissant. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Vous-même, professeur, s'investir dans l'activité, oser l'activité, sans forcément prendre toute la place bien sûr, mais être suffisamment actif et présent pour que les apprenants se sentent en confiance et accompagnés.
Oui, puis alors là, du coup, tu vois, suivre une formation comme celle que tu as proposée, ça aide d'autant plus puisque tu as été dans leur situation. Et puis quand tu lances cette activité, tu y crois vraiment. Mm-hmm. Tu vois, et c'est important comme pour lancer un jeu en classe, par exemple. Si tu n'y crois pas, tu auras du mal à le faire passer auprès de tes apprenants. Hein.
Mm-hmm, complètement. Alors, donc il y a toujours une prise de risque hein, quand on propose une nouvelle activité. On a toujours. On peut bien sûr douter, mais le faire à demi-mesure souvent ne fonctionne pas parce que on s'investit pas suffisamment dans l'activité. C'est un peu comme c'est une image que je donne aussi souvent dans l'atelier. C'est un peu moi je pense que le professeur est un peu comme un capitaine de bateau et un capitaine de bateau il doit savoir où il va. C'est pas lui qui rame, c'est pas lui qui fait avancer le bateau. Il accompagne les matelots, il les dirige dans le sens qu'il leur propose des directions, mais lui-même doit savoir où il va. Et si le capitaine de bateau en pleine mer dit à ses matelots, écoutez, on est complètement perdu, ou alors on va changer de cap, mais alors j'ai aucune idée de où est-ce qu'on va atterrir, et voilà, ça devient un petit peu la panique sur le bateau, non?
Et
chez le professeur, je pense que c'est pareil. On peut changer de cap, on peut changer de pratique, on peut proposer des choses nouvelles, mais on doit avoir cette assurance pour les apprenants de proposer quelque chose, d'aller un peu au fond des choses, de pas s'arrêter tout de suite et de pas s'arrêter non plus à l'idée que l'on se fait de nos apprenants. Hein, parce que très souvent, on croit que les apprenants n'ont pas envie, ne sont pas capables, etc. Et en fait, on se rend compte très vite que bah, finalement, si. Moi, ça m'est arrivé, hein, encore une fois, avec un public de professionnels, hommes d'affaires, avec deux mallettes, trois téléphones portables, hyper préoccupés en rentrant dans la classe, avec un air très sérieux, et à me demander est-ce que je vais vraiment introduire les activités théâtrales que j'avais prévues dans mon cours. Et puis, je l'ai quand même fait, j'ai quand même pris le risque, hein, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils adoraient, parce que malgré leur air sérieux, ils avaient besoin aussi, eux, de bouger, de s'exprimer, et puis même de se défouler, même si ce n'était pas le seul objectif de l'activité. Ça leur avait fait beaucoup de bien aussi. Donc, il ne faut pas non plus toujours s'arrêter à l'image que l'on se fait des apprenants, je pense. Oser aussi imaginer que ça peut fonctionner. Bon, toujours une fois des limites, hein, parce que si vous le sentez vraiment pas, c'est pas peut-être pas le bon moment pour le faire. Et je pense qu'un professeur, d'ailleurs, c'est encore une fois un lien avec un comédien, doit être suffisamment prêt à improviser, à changer son cours au dernier moment, à le transformer, à l'adapter en permanence. Face à son public, face à la réaction de ses élèves. Si on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que voilà, on peut toujours transformer, on peut adapter. Et chaque activité, qu'elle soit de mon livre ou qu'elle soit d'autres ouvrages, sont adaptables. C'est au professeur de les adapter, c'est au professeur de les utiliser en fonction de leur groupe, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire dans leur classe. Ça ne reste que des propositions. Et ça, je me rends compte en permanence dans mes formations de formateurs que les professeurs les modifient, les transforment et le résultat est souvent assez extraordinaire.
Ouais. Et justement, moi, je me posais une question, tu sais, sur la conclusion de ces activités. Comment tu mets fin à une activité? Prenons un exemple simple, tu vois, de jeu de rôle. Comment tu arrives à conclure? Parce que c'est pas toujours facile de conclure un jeu de rôle. Et surtout, après, quel bilan tu fais avec tes apprenants?
Alors, avant de parler de conclure, j'aimerais parler comment introduire, parce que ça va ensemble. Un jeu de rôle, il existe, enfin, du moins au théâtre, une improvisation, une scène existe que s'il y a un début et une fin. Donc, pour que cela, ça existe, il faut d'abord construire que chacun visualise qu'il n'est non pas devant le tableau, mais sur une scène de théâtre. L'espace va permettre de donner forme au jeu de rôle et permettre aussi à l'apprenant de se rendre compte que sur scène, il joue, il a cet espace de liberté, hein, donc il va pouvoir vraiment se plonger dans un personnage. Donc comment est-ce qu'on commence dans un premier temps un jeu de rôle? On va... Alors c'est d'ailleurs une technique que m'a donnée une des professeurs que j'ai formée, c'était au Mexique, Angela Silva, qui travaille à l'IFAL. Et qui a eu cette très bonne idée vous voyez, quand on parle hein, de transformation des activités, de placer des vêtements, des lunettes, des foulards, donc différents accessoires, des chapeaux, des cravates, etc., sur le devant de la scène, et demande ensuite à ses apprenants de fermer les yeux pendant 10 ou 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes, donc tout le public ferme les yeux et compte tous ensemble de 10 à 0. Et pendant ces 10 secondes, les deux, trois apprenants qui sont sur scène et qui vont jouer une scène vont prendre des accessoires et vont changer leur physionomie. Et ensuite, tout le monde ouvre les yeux et là, tout d'un coup, on ne reconnaît pas les camarades de classe ou pour nous, dans les formations de professeurs, les collègues, mais... Tout de suite, on voit des personnages. C'est comme si un rideau venait de s'ouvrir et que vraiment le théâtre est là. On apparaît, le théâtre est rentré dans la classe. Ça, c'est assez frappant, hein. Si vous faites cette expérience dans votre classe, vous verrez que tout d'un coup, sans scène, sans lumière, sans décor, juste avec quelques accessoires, en fermant les yeux, puis en les réouvrant, on se rend compte que on est sur scène, on est au théâtre. Donc ça, c'est déjà, on a propulsé les élèves sur une scène, dans une activité de jeu de rôle théâtralisé. Et ensuite, comment ça finit? Alors au théâtre, on appelle ça la chute, hein, c'est la
Oui.
fin de l'improvisation. Donc improviser, c'est souvent aller ensemble vers une direction et surtout vers une chute, hein, comment terminer cette improvisation ensemble. Donc ça, c'est ce que j'appelle les improvisations ouvertes dans mon livre. Il y a d'autres improvisations qui sont plus simples pour les élèves, qui sont davantage guidées, où on connaît déjà hein, le début, le milieu, la fin. Tout est déjà bien structuré. Mais peu importe, dans l'un comme dans l'autre, ce qui est important, c'est que la chute soit très visuelle. Donc comment est-ce qu'on termine une improvisation? Alors soit on peut sortir de scène, donc c'est là où c'est intéressant d'avoir une scène, parce que ça nous permet de sortir de scène hein, et donc de conclure ce jeu de rôle. Ou bien de se figer sur la scène et donc c'est un code hein, qui permet de comprendre que la scène est terminée puisque les acteurs se sont tous figés en même temps.
Ouais.
Donc voilà hein, comment on peut conclure ça. Ensuite, une fois que l'activité est terminée, si les apprenants qui viennent de jouer leur jeu de rôle théâtralisé, si ils sautent tout de suite dans le public. Ils vont être voilà rigoler, discuter avec leurs camarades, mais on va pas vraiment pouvoir exploiter du moins ce que l'on vient de vivre ou de voir. Donc ce que je demande c'est aux apprenants de rester sur la scène. D'ailleurs c'est aussi assez théâtral, il peut y avoir un petit salut, le public applaudit et puis à partir de là ils restent sur la scène et il y a un dialogue qui s'effectue entre le public et les comédiens. En fonction du niveau, ce dialogue on essaye de le faire en français. Et là, le professeur est un petit peu animateur de débat où il va donner la parole au public, aider les apprenants à exprimer ce qu'ils ont vécu, les difficultés, ce qu'ils ont cherché à interpréter. Donc, il y a beaucoup de jeux de découverte. Hein, on va chercher à découvrir ce qui a été fait. Et y a une réelle communication qui s'établit. Et ça, encore une fois, ça va créer du lien entre les apprenants. Ça va permettre cette cohésion de groupe dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, moi, je sais que je fais jamais de retour langagier, on va dire, tu sais, sur peut-être les erreurs qui ont pu être commises, etc. Je prends beaucoup de notes et c'est plutôt le cours suivant, si tu veux, où je reviendrai un petit peu sur les erreurs de groupe cette fois, mais pas un retour linguistique tout de suite sur les participants juste après qu'ils aient joué quelque chose. Hein.
Bien sûr, oui, on peut le faire après. On peut le faire aussi après l'improvisation. Mais ce qui est important, c'est de ne pas le faire pendant le jeu, parce que là, on ne permettrait pas à l'apprenant de se transformer dans son personnage et donc de vivre l'activité. Hein. Il reviendrait automatiquement dans son rôle d'apprenant, ce qui serait dommage. Donc effectivement, oui, prendre des notes, ça permet de faire un retour après. Alors, quand la confiance est suffisamment installée, donc pas au tout début, mais un petit peu plus tard, avec des apprenants déjà un peu accros, j'ai envie de dire, aux activités théâtrales, on peut aussi utiliser une petite caméra que l'on place au fond de la salle et on l'oublie complètement, et ensuite filmer. Et donc là, on se rend compte de beaucoup de choses aussi en visionnant une scène. Et voilà, c'est important effectivement de ne pas, bon, d'éviter effectivement l'évaluation trop trop négative, et puis d'éviter que l'apprenant se sente frustré, parce que toute personne qui fait du théâtre connaît ça. Le théâtre, c'est aussi parfois certaines frustrations parce qu'on n'a pas réussi à faire ce que l'on voulait. Et le temps presse, d'autres groupes doivent passer, et on n'a pas le temps de le reproduire, de le jouer une deuxième fois mieux après les indications du metteur en scène dans le cadre d'un atelier, ou après les indications du professeur dans le cadre d'une classe. On aimerait le faire à nouveau et cette fois-ci réussir. Et parfois, eh bien, on manque de temps, alors on fait passer à un autre groupe, ou alors ça y est, c'est terminé. Et là, c'est vrai qu'on peut sentir chez les apprenants un peu de frustration. Donc, essayez, dans la mesure du possible, du moins si vous donnez des indications immédiatement après, de proposer au groupe de repasser une deuxième fois. Peut-être pas pour jouer toute la scène, mais au moins une petite partie où ils se sentiront, voilà, c'est une petite victoire qu'ils auront à la fin de cette activité.
Ouais. Bah Adrien, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Alors je renvoie sur ton livre, vous trouverez bien sûr les liens dans les notes de l'émission et sur le blog. Donc activité théâtrale en classe de langue chez Clé International. Et il y a aussi beaucoup de pistes dont on n'a pas parlé, notamment sur le rôle des spectateurs. On peut leur attribuer des tas de choses à faire pendant que des groupes passent, etc. Donc, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Et puis les formations aussi que tu peux proposer. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Alors, sur Internet, donc, il y a mon blog, c'est donc www.theatre-fleu.blogspot.com.
Ouais, voilà. Là aussi, je mettrai les liens, bien sûr, dans les notes de l'émission et sur le blog, bien sûr. Voilà. Un peu de réseaux sociaux aussi ou pas trop?
Oui, sur LinkedIn. Voilà, je suis sur LinkedIn, donc... voilà, j'annonce aussi plusieurs formations. Alors, la prochaine, ça sera à Athènes, hein, en juin. Donc très régulièrement, bon, 2 à 3 fois par mois, je repars dans de nouvelles villes pour de nouvelles formations, pas uniquement sur le théâtre d'ailleurs, hein, mais aussi ou du moins plusieurs formations sur le théâtre. Il y a 3 ateliers sur le théâtre. Le premier, c'est donc activité théâtrale en classe de langue, qui reprend un petit peu tout ce que l'on a vu là, et surtout qui permet de le vivre, de le mettre en pratique. Hein. C'est un atelier 100% pratique.
Et qu'il faut faire, à mon avis, en tant que prof, parce que ça, on prend conscience de beaucoup de choses, hein, quand on le fait.
Merci. Ensuite, on a aussi technique d'acteur pour enseignant. Donc ça, c'est un stage qui va aider cette fois-ci vraiment l'enseignant personnellement dans sa manière d'enseigner, autant que communicant, avoir certaines techniques d'acteur, hein, pour l'aider. Donc là, on va travailler sur la voix. La voix, c'est c'est l'outil premier de l'enseignant. Donc, comment arriver à rentrer à la maison sans avoir mal à la gorge après plusieurs heures de cours, comment porter sa voix, la propulser, etc.
Oui, et puis garder, comment avec l'intonation aussi, garder l'attention. Quand on donne des consignes, c'est super important, quoi.
Le rythme, oui, effectivement, tout à fait. Travailler sur le corps, encore une fois, la posture, l'expression corporelle, clarifier ses gestes quand on communique certaines indications aux apprenants. Travailler sur la présence aussi, comment se sentir à l'aise et avoir une présence qui permet de gérer une classe et qui va aussi apporter une certaine relation avec les apprenants. Donc voilà, c'est tous ces points, tous ces aspects que l'on traite dans Technique d'acteur pour enseignants, qui est une nouvelle formation et qui fonctionne bien. Et qui aide vraiment l'enseignant en tant qu'individu, disons, alors qu'activité théâtrale, c'est davantage pour ensuite le mettre en place dans le cours.
Ouais, et puis alors là aussi, sur la présence, tu as des activités qui sont assez surprenantes, avec des choses, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'était des bonnes expériences aussi avec les personnes dans le dos et tout ça.
Ouais, et puis ça a créé une cohésion de groupe à New York. Vous étiez nombreux, en plus, vous étiez peut-être une.
On était 70, quelque chose comme ça.
170, et le groupe s'est formé très vite, c'était assez magique. Et puis le dernier, donc, ça correspond à la deuxième partie de mon livre, donc plus sur le projet théâtral. Donc ça, c'est davantage comment monter une pièce de théâtre avec des apprenants, avec toutes les étapes nécessaires à la mise en place du projet, de la recherche du texte, à l'apprentissage du texte. Quand on parlait tout à l'heure de ne pas corriger directement les apprenants. Là, par contre, quand on va apprendre un texte de théâtre, il est indispensable que le professeur ou quelqu'un de référent puisse corriger immédiatement au niveau phonétique les erreurs de l'apprenant dans le processus d'apprentissage du texte, parce que sinon, il va l'apprendre, l'enregistrer mentalement avec ses erreurs phonétiques, et ensuite, ce sera très, très difficile de ne plus faire cette faute par la suite. Donc voilà, c'est des choses, une technique un petit peu différente, un point de vue différent pour des professeurs qui ont envie d'aller plus loin. Pour moi, je le vois un peu comme une deuxième étape, monter un projet avec des élèves motivés pour jouer une pièce de théâtre avec des apprenants. Voilà. Puis après, sur le blog, vous trouverez beaucoup d'autres choses sur le DELF, parce que je suis aussi l'auteur de méthodes sur le DELF, et puis bientôt sur l'audiovisuel en classe également.
Ouais. Et d'ailleurs, cette deuxième partie de ton livre, même si on n'a pas de projet à mener avec ses apprenants, il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a encore des fiches d'ailleurs. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de pistes d'exploitation à retenir qui peuvent s'adapter à la classe.
Ouais, complètement. Ouais, il y a beaucoup de. Alors, c'est classé par le corps, la voix, l'improvisation, etc. Mais on peut toujours les adapter et c'est d'ailleurs très intéressant de le faire. C'est des exercices, on va dire, qui ont une touche un petit peu plus théâtrale, justement, où on va chercher à rentrer un petit peu plus. Il y a beaucoup qui sont intéressantes à travers les émotions, etc. Donc, c'est un petit peu, encore une fois, une deuxième étape. Moi, je conseille toujours d'utiliser les activités, les 60 premières activités du livre. Et puis ensuite, une fois que les apprenants sont demandeurs, proposer des choses qui vont aller un petit peu plus en profondeur dans ce monde, parce que c'est quand même une découverte du milieu théâtral. Tout à l'heure, au début, je disais, certaines personnes vont dire ce n'est pas du théâtre et comme ça on va pas avoir ce premier blocage, mais si on le dit même plus tard, c'est quand même découvrir une pratique artistique dans la classe. Il y a un côté très utilitariste des techniques théâtrales pour l'enseignement, mais ça n'empêche pas que on vit le théâtre dans la classe, que on vit des moments de théâtre en public ou sur scène. Et ça, c'est possible si on met en place un espace, un peu de musique, quelques accessoires. C'est vraiment intéressant de pas s'arrêter aux activités d'oral, mais vraiment de proposer des activités davantage théâtrales.
Ouais. Eh bien, Adrien, un grand merci encore.
Eh bien, merci encore pour l'invitation, et puis à très bientôt, Sébastien.
À bientôt. Et on passe maintenant au point tech. Alors cette semaine dans le point tech, je vais vous présenter un site qui s'appelle DictX Matière. Alors en fait, cette semaine, je travaillais sur un document pour mes cours et j'ai eu besoin d'avoir un champ lexical. Pour vous raconter un peu ma vie, je travaillais sur un document sur les catastrophes naturelles et j'ai eu besoin d'avoir le champ lexical de la tempête. Comme je voulais pas faire travailler mes neurones fatigués, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'existe pas un outil pour trouver des champs lexicaux? Et je suis tombé sur DictX Matière, alors qu'il y a un peu plus que ça. Alors, DictX Matière, ça vous permet de faire plein de choses. Vous pouvez l'utiliser comme un dictionnaire de rythme en cherchant des mots qui finissent par et vous mettez le son. Vous pouvez aussi faire une recherche avec des mots qui commencent par et puis vous mettez quelque chose. Si vous mettez les préfixes, les suffixes, tout ça, ça peut fonctionner. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr l'utiliser comme dictionnaire en cherchant la définition d'un mot. Et il y a une dernière case qui est « mot en rapport avec ». Vous tapez votre mot, vous faites « chercher » et ensuite, vous avez tous les mots du champ lexical. Pas seulement des synonymes, hein, mais tous les mots qui seront en rapport avec le mot que vous avez tapé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça va un petit peu plus loin aussi si vous cherchez par exemple des conjugaisons. Vous pouvez aussi chercher des mots par nombre de lettres. Donc si vous voulez faire un motus dans votre classe, eh bien, vous pouvez chercher des mots avec le nombre de lettres, je crois que c'est 7 de mémoire, et puis vous aurez toute une liste comme ça de mots. Donc c'est un outil qui est pas mal, facile à utiliser, et il n'est pas très très beau hein, quand vous voyez le site, mais c'est vraiment intéressant, et cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi l'utiliser en anglais, et ça va plaire à mes collègues d'espagnol, bien sûr, il y a l'option espagnol, donc vous pouvez faire ces mêmes recherches en espagnol aussi. Voilà, c'est tout pour ce point tech. Vous retrouverez bien sûr les références de DictX Matière dans les notes de l'émission et sur le blog. Et j'espère que ça vous servira. Et on va passer maintenant à la rubrique fourre-tout. Et on commence cette rubrique fourre-tout par une ressource qui est dédiée au théâtre aussi. Alors, il s'agit des podcasts de l'Université de Grenoble. Alors, c'est pas vraiment un podcast pour les puristes parce qu'il n'y a pas vraiment d'abonnement et puis il n'y a pas de régularité dans la parution. En revanche, c'est quand même une vidéo très intéressante qui nous parle de théâtre. Et c'est Ève-Marie Rolina Levasseur qui nous fait une présentation de 50 minutes à peu près qui s'intitule « Le jeu ». Dangereux, entre parenthèses, de l'institutionnalisation des fonctions et du rôle du théâtre dans le cadre éducatif. Alors c'est assez théorique, elle reprend un peu l'histoire du théâtre et puis nous montre un peu l'utilité des pratiques théâtrales dans l'éducation et notamment dans l'enseignement des langues. Alors c'est une vidéo quand même très intéressante à regarder et je rappelle que Ève-Marie Rolina Levasseur était à l'époque de cette présentation, j'ai pas suivi depuis, professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Alors si vous voulez voir quelque chose de plus concret sur le théâtre, je vous invite à aller sur labullefleu.fr où Céline Huet nous explique un projet qu'elle a mis en place sur écrire et jouer une pièce de théâtre. Donc tout est très bien fait, elle a détaillé en chaque jour de la semaine, c'est des séances de 4 heures, et elle nous explique comment, en partant d'un extrait d'un roman, elle lance l'écriture de dialogue pour ensuite travailler sur le jeu et lancer une représentation à la fin de la semaine puisqu'elle a 20 heures de cours par semaine et elle fait ça en 5 fois 4 heures. Alors là aussi c'est très bien fait, elle nous explique, elle nous donne l'extrait, elle nous explique comment la travailler, comment la remédier, les objectifs linguistiques qu'on peut travailler en fonction des extraits, et cerise sur le gâteau, elle a même ajouté deux vidéos où on voit une enseignante travailler sur le jeu d'acteur avec ses élèves qui vont jouer une scène, et donc on peut s'inspirer un petit peu des défauts de jeu des élèves pour essayer de corriger la représentation qu'on veut mettre en place. Donc voilà, vous pourrez bien sûr retrouver le lien vers ce projet dans les notes de l'émission et sur le blog artdufleu.net. Merci donc à Céline d'avoir partagé ce projet qui, comme elle le dit, hein, permet de nourrir des réflexions. Donc elle a dû réfléchir pas mal en écrivant son billet. Mais vous aussi, vous pourrez voir, si vous voulez vous lancer dans un projet théâtre avec votre classe, les petits points clés auxquels il faut penser pour se lancer dans l'aventure. Alors dans le théâtre, mais pas seulement, on peut aussi chercher à travailler sur les expressions. Et c'est toujours un peu compliqué de pouvoir sélectionner ces expressions, de voir comment les travailler. travailler. Alors, j'ai trouvé un site sur les expressions. Vous aurez le lien, mais c'est expression au pluriel.ccdmd.kc.ca. C'est donc un site québécois. Alors, c'est pas mal fait du tout, hein. Vous avez en gros deux onglets dans lesquels vous avez différentes options. Dans le premier onglet, c'est la recherche d'expressions. Vous pouvez rechercher par langue, à savoir qu'il y a le français, l'espagnol et l'anglais qui sont disponibles. Vous pouvez ensuite chercher par catégorie. Donc là, il y a différentes possibilités, anatomie, animal, couleur, etc. Et vous pouvez bien sûr chercher par mot-clé en cochant dans l'expression ou le contexte. Par exemple, si vous voulez chercher toutes les expressions avec le mot chat, eh bien vous tapez chat dans le champ mot-clé et puis vous aurez toutes les expressions avec chat qui vont apparaître. Il y a beaucoup d'expressions, hein, il y en a un peu plus de 900 là pour le français. Le deuxième onglet, c'est l'onglet fiche. Et dans l'onglet fiche, eh bien vous avez donc l'expression qui est écrite. Vous avez ensuite le contexte que vous pouvez écouter. Donc vous entendez une petite explication avec l'expression, un petit dialogue avec l'expression, une explication écrite en dessous, la catégorie évidemment. Et puis vous avez une deuxième petite fenêtre dans le même onglet qui est l'affichage de l'équivalent. Et donc vous pouvez choisir une expression équivalente, soit en espagnol, soit en anglais, et l'écouter dans le contexte aussi. Donc voilà ce petit site qui vous permet donc de rechercher vos expressions, de pouvoir en sélectionner autant que vous voulez, et puis de pouvoir les intégrer à votre cours, ou si vous êtes dans un projet d'écriture de scénette pour le théâtre, eh bien ça peut être un bon jeu d'écriture créative que de insérer dans un dialogue des expressions avec des animaux, avec l'anatomie, avec ce que vous voulez. Alors dans ce numéro, je voulais aussi vous faire part d'une découverte qui s'appelle Speechy Project. Alors Speechy Project, c'est en fait un site qui vous permet de rechercher des ressources pour enseigner. Vous avez trois onglets principaux, ressources à la carte, Teaching Materials et Tools. Alors tout le site est disponible pour l'enseignement du français langue étrangère, de l'anglais langue étrangère et de l'espagnol langue étrangère. Donc dans l'onglet ressources à la carte, eh bien vous pouvez choisir votre langue et ensuite, donc dans français par exemple, vous allez avoir des sites de grammaire, des sites de compréhension, des sites d'écriture, de lecture et de vocabulaire. Dans l'onglet Teaching Materials, eh bien, vous avez toujours cette répartition en trois langues et puis vous voyez les principaux sites, donc c'est toujours Top ELT Website, Top Flow Website, etc. Et dans l'onglet Tools, ce sont les applications web et les applications mobiles. Alors ce qui m'a surtout intéressé dans ce site, c'est l'écriture. Donc je suis allé dans Ressources à la carte, je suis allé ensuite dans Writing Website et j'ai cliqué et je suis tombé donc sur différentes ressources très intéressantes pour alimenter vos cours. Donc là par exemple je vois donc une sélection de courts-métrages, donc c'est toujours assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup, il faut les regarder, ça prend énormément de temps, mais c'est vrai que ça donne lieu à des exercices d'écriture créative ou de critique assez intéressantes. Vous avez ensuite des outils pour créer des histoires en quelques clics et qui donnent lieu à de belles présentations. Vous avez aussi des outils pour de l'écriture interactive et ce sera à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Et puis comme ça, toute une série de ressources qui sont disponibles. Donc, alors quand j'ai commencé à explorer ce site, j'étais un petit peu sceptique, mais finalement, même si j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que là j'ai pas eu d'activité clé en main pour faire de l'écriture créative en classe, mais j'ai eu du coup beaucoup d'outils et de ressources qui m'ont donné des idées pour créer de nouveaux cours. Donc c'est vraiment à explorer quand vous avez le temps et pas quand vous êtes dans l'urgence de préparer un cours, mais vraiment ça vaut le coup puisque là vous pouvez donc créer des présentations, créer des textes interactifs, avoir des ressources pour pouvoir déclencher l'écriture chez vos apprenants. Donc quand vous avez le temps, et là ça va bientôt être les vacances, vous allez préparer vos cours pour la rentrée, c'est l'occasion d'aller piocher de nouveaux outils et de nouvelles ressources sur ce projet qui commence tout juste et qui va se développer, j'en suis sûr. Ah oui, j'oubliais d'ailleurs, pour que ce projet se développe, vous pouvez participer et soumettre des sites. Et moi, de ce pas, je vais aller soumettre le site de Gapfleu. Sur Gapfleu, d'ailleurs, j'ai découvert, grâce à Gabriel, une série qui s'appelle Parents mode d'emploi. Alors, dans son dernier billet, ou du moins au moment où j'enregistre, elle parle de cette série. Elle fait bien sûr toute une activité de compréhension autour de sa présentation de la série. Et ensuite, elle vous montre un extrait de la série, et puis avec la transcription et quelques remarques pour travailler donc autour de cette série qui est très courte, des petits épisodes qui fonctionnent un peu sur le modèle d'un gars et une fille, donc des répliques très courtes, sans doute plus faciles à comprendre d'ailleurs qu'un gars et une fille. Ou qu'une autre série comme Kaamelott, hein, qui sont assez difficiles à comprendre pour des apprenants en français langue étrangère. Donc je vous invite vraiment à aller sur son site, découvrir cette série et puis découvrir sa présentation avec tout le questionnaire, les activités qu'elle a mises en place avec des textes à trous, etc. Et puis comme les grands esprits se rencontrent, vous pouvez aussi aller sur la boîte à fleu, où là aussi il y a un travail à faire sur les mini-séries. Alors cette fois c'est plus Parabole d'emploi, mais c'est Scène de ménage. Et donc là, même chose, vous pouvez regarder un extrait du DVD et puis il y a tout un tas d'activités interactives qui sont mises en place, des retranscriptions pour travailler autour de ça. Alors c'est bien sûr en lien avec ce numéro sur le théâtre puisque ces séries sont très courtes avec des petits dialogues et donc c'est une très bonne initiation pour le théâtre et donc essayez de demander à vos apprenants de rejouer les dialogues soit en doublant, soit eh bien, en utilisant différents accessoires, etc. Et puis pourquoi pas après leur faire écrire des dialogues de scènes de ménage ou de Parents mode d'emploi pour les jouer devant la classe avec toujours eh bien, les conseils d'Adrien, hein, des petits accessoires, des scènes un peu mises en place dans la classe pour rendre l'exercice encore plus intéressant. Et on termine cette rubrique fourre-tout par un dossier sur la francophonie sur Tisse en fleu de Majosé. Encore une fois, un superbe dossier. Alors là, je vous énumère quelques exemples. Mais bon, vous avez donc des ressources avec des animations sonores, des cartes de la francophonie, la carte de l'OIF, des leçons et des exercices sur la francophonie, les expressions, la conjugaison. Vous avez des documentaires, vous avez des quiz, vous avez aussi une frise historique, vous avez une émission à exploiter, vous avez des dessins, vous avez des contes. Il y a des ressources pour à peu près tous les niveaux et vous avez même des activités pour les TBI, pour la compréhension orale, des jeux, etc. Il y a même un concours en ligne. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce billet de Marie-Josée donc sur Tisse en fleu. Vous trouverez bien sûr tous les liens de ce que je viens de vous énoncer dans les notes de l'émission et sur le blog artdufleu.net. Et c'est là-dessus qu'on termine ce numéro 18 des Arts du Fleu. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant des commentaires sur le site, mais aussi sur iTunes. Vous pouvez bien sûr faire vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Google+, sur Twitter. Sur Facebook, ça a bougé pas mal d'ailleurs cette semaine, puisque j'essaie de faire revivre un petit peu cette page. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur LinkedIn. En général, je relaie les informations sur les groupes de Tencentu et de Français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr toujours faire un don qui est hautement apprécié. Et on se retrouve d'ici peu pour un nouveau numéro des Arts du Fleu qui sera consacré toujours au théâtre, mais cette fois sur les projets de théâtre en classe, donc comment mener un projet de théâtre avec sa classe. Un dossier qui sera très très intéressant. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cours!